Bonjour, Cassia. Bonjour, Kimberly.
Ben oui. Vous savez, bonjour, Marianne.
Bonjour. J'ai le livre de Cassia sous les yeux, Cassia Whitelaw, elle qui a écrit un petit livre au sujet du cancer pour t'aider au travers des moments difficiles. Et bon, mon lapsus est un petit peu, est pas anodin, en fait, Kimberly, parce que c'est vraiment ce bouquin-là qui nous a amené à se parler.
Oui.
Parce que, il faut que je mette en contexte, bien sûr, Cassia Whitelaw, à l'âge de 6 ans, a vécu le cancer de sa mère. Elle a été, bien sûr, extrêmement touchée par cette expérience-là. Et maintenant, à l'âge de 19 ans, elle travaille au Centre de bien-être de l'Ouest de Lille et elle a rencontré là-bas une maman qui avait extrêmement de difficultés à dire à son enfant qu'elle souffrait du cancer, qui était complètement démunie. Et elle a eu envie, en fait, de se mettre à la place de cet enfant-là parce qu'elle s'en sentait capable pour l'avoir vécu elle-même. Et elle a fait cet exercice-là et ça se transmet dans ce livre-là. Vous qui travaillez comme travailleuse sociale au programme d'oncologie psychosociale, vous rencontrez tous les jours des enfants, des parents endeuillés ou qui vivent la maladie d'un parent. Les enfants, est-ce qu'ils ont envie d'en parler de la maladie de leurs parents?
Bien, je dirais que ça dépend. Et souvent, les consultations vont nous arriver en disant « Kimberly, j'ai une famille, le père vient de recevoir un diagnostic, ils ont des enfants de 3, 5 et 7 ans, faut faire quelque chose. » Donc, souvent, la première intervention, c'est, je pense, de s'asseoir avec les parents et de regarder comment eux sont à l'aise ou non de parler de leur maladie, hein, et comment ils réagissent à ce nouveau diagnostic-là, ainsi qu'aux traitements qu'ils vont suivre ou aux traitements en cours. Et par la suite, c'est certain que la question vient, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Comment on en parle? Est-ce que je dois en parler et comment? Et une fois qu'on fait un petit scénario, un role-play en bon français avec les parents sur comment on peut se pratiquer à leur parler, à ce moment-là, s'ils ne sont pas capables de le faire seuls à la maison, moi, je vais les inviter à venir dans mon bureau et c'est là qu'on va s'asseoir avec eux pour justement en parler. Et moi, je vais agir tout simplement comme intermédiaire et les aider à faire parler les enfants ou à exprimer leurs émotions par rapport à tout ça.
Oui, parce que quand on souffre d'un cancer, qu'on a de jeunes enfants, c'est un petit peu difficile de le cacher. On va perdre peut-être nos cheveux, on va s'absenter, plus de fatigue, par exemple. Donc, les enfants, ils ressentent ça, j'imagine, beaucoup.
Beaucoup, puis les enfants vont réagir à ce qu'ils voient. Hein? Souvent, c'est très concret. Si on parle surtout des enfants là, avant l'adolescence. Donc, pour eux, tant que leur routine ne change pas, hein, tant qu'ils continuent d'aller au ballet, au tennis, à la natation, pour eux, la vie semble bien aller. Lorsque tout d'un coup, leurs besoins primaires ou leur petite routine se transforme et change, comme « Ah, comment ça, je ne peux plus aller chez mon ami? Pourquoi je ne peux plus faire telle affaire? » Là, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a quelque chose de différent, mais ils ne parleront pas nécessairement clairement de la maladie ou ne feront peut-être pas le lien automatique avec « Ah, c'est parce que maman fait de la chimio, donc papa doit s'en occuper parce qu'elle est trop fatiguée et c'est pour ça que je ne peux pas aller jouer avec mes amis.
Oui. »
Et souvent, les parents vont dire « Coudonc, mon enfant est donc bien insensible. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. » Mais c'est ça, c'est que les enfants vont réagir à leurs besoins, à eux, qui sont soit pas comblés ou à leur routine qui est changée.
Oui.
Aussitôt qu'ils vont commencer à voir des choses concrètes comme la perte de cheveux, là, ils vont poser des questions plus précises par rapport à la maladie. Et c'est là que je dis souvent, quand les parents me disent « qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois expliquer? » Moi, je dis toujours « qu'est-ce que vos enfants vous demandent? » Je pense que c'est d'être à l'écoute et même de demander aux enfants « qu'est-ce que tu penses qui se passe avec maman présentement? » Pourquoi tu penses que je perds mes cheveux? » Et à ce moment-là, ça ouvre la porte à donner des réponses aux enfants par rapport aux questions qu'ils ont. Parce que je dis souvent, dans notre tête d'adulte, là, on a de l'expérience puis on se fait des inquiétudes des fois que les enfants ne se font même pas.
Oui, on va au-devant de leurs propres inquiétudes.
On va au-devant, puis à l'inverse, je dirais que si on n'en parle pas et qu'on tente de tout cacher, on dit tout le temps, quand les enfants ne savent pas, n'ont pas l'information, ils vont s'inventer des histoires.
Ouais.
Hein? Puis on sait surtout plus ils sont jeunes, hein, la créativité, là, ça va loin. Puis j'entendais dans l'introduction que souvent, les enfants ont tendance à se culpabiliser, hein, ou à dire « Ah, l'autre fois, je me suis chicanée. avec mon frère. Puis là, ma mère est revenue de l'hôpital, puis elle était malade.
Donc, c'est de ma faute.
Ils vont dire, c'est de ma faute.
Oui.
Si je ne m'étais pas chicanée. Ou si j'avais fait mon lit.
Ouais.
Hein, des choses aussi
banales que ça.
Oui.
Kimberly, le livre de Cassia Whiteland commence, en fait, la première page m'a beaucoup révélé sur ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant. La première question, est-ce que je peux l'attraper? Ou encore, est-ce que je suis gentille? Un peu ce qu'on disait par rapport à faire son lit ou pas. Est-ce que si je suis gentille, si j'accomplis mes tâches, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on peut le détruire pour toujours, le cancer? Les enfants, ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous entendez dans votre bureau?
Bien, je dirais, pour parler du livre de Cassia, je le trouve excellent dans le sens que je pourrais dire, pour l'avoir feuilleté, que tout ce qui s'y retrouve, je pense que je le vois dans la plupart des familles ou des enfants que je rencontre. Puis, une des premières affaires qu'on fait, c'est avec les enfants, c'est de démystifier le cancer et d'expliquer que ça ne s'attrape pas.
Oui, c'est pas contagieux.
C'est pas contagieux. Ça, c'est très important. Et quand les enfants disent, est-ce qu'on peut mourir du cancer?
Oui.
Souvent, ce que je vais faire, c'est, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et là, ils vont me dire, oui. Puis là, des fois, ils vont m'expliquer toute une histoire. Puis là, les parents me regardent en voulant dire, mon Dieu, comment ça, qui c'est ça? Pourquoi? Parce qu'on l'a entendu à cause de la course Terry Fox à l'école, parce qu'il y a un professeur qui a été malade ou un autre enfant qui a perdu sa maman.
Est-ce qu'on écoute les conversations des adultes, même s'ils pensent qu'on est couché?
C'est ça. Puis même ça se passe dans les maisons. Souvent, on pense que les enfants ne nous entendent pas. Le téléphone sonne, une amie appelle, on parle des résultats, on parle de tout ce qui s'est passé dans la journée, puis on fait pas attention. Et là, finalement, l'enfant a entendu quelques bribes de la conversation. Et deux jours plus tard, l'enfant nous arrive avec « Ah, tu sais, l'autre fois », puis il pose une question, puis les parents se demandent d'où que ça vient.
Mm-hmm.
Mais c'est parce qu'ils ont été témoins d'une conversation.
Ouais. Est-ce que, parce que le rôle d'un parent, c'est de protéger son enfant. C'est pas mal la première définition. Et pour le protéger, est-ce qu'il y a des parents, est-ce que vous entendez ça, qui refusent de parler de leur maladie aux enfants?
Il y a des enfants, des parents, oui, qui vont refuser. Puis j'ai même vu des parents qui refusent d'en parler à leurs enfants, même adultes. Hein? Donc, on veut protéger nos enfants, pas seulement quand ils sont mineurs, mais même à l'âge adulte. Et j'ai déjà vu là, que ça pouvait causer beaucoup de conflits. Si on a la chance de rencontrer ces parents-là avant que les symptômes physiques soient plus apparents, à ce moment-là, on réussit, peut-être, je dirais, là, à apprivoiser le fait d'être capable de parler à son enfant de la maladie. Parce que si on n'en parle pas, de toute façon, l'enfant va ressentir quelque chose.
Oui.
On a déjà entendu ça, l'expression, là, les enfants, c'est comme des petites éponges.
Oui.
Que ce soit la maladie, que ce soit un conflit, une séparation, peu importe, ils vont ressentir une sorte de tension. Et des fois, les parents vont dire, bien là, je comprends pas, mon enfant est plus agité, là, il est en colère, d'habitude, c'est pas lui. Puis là, quand on pose des questions, pourtant, j'en parle pas. Et là, quand on questionne un petit peu plus loin, on s'aperçoit que les enfants ont vraiment capté des moments clés et ils ont raison de ressentir une certaine tension. Et c'est là qu'on fait beaucoup de psychoéducation sur les bienfaits d'en parler aux enfants.
Oui, et d'en parler aux enfants amène probablement des bienfaits aux parents.
Oui, parce que les parents aussi, j'ai l'impression qu'ils se font beaucoup de peur pour rien. Une mère qui refusait de dire « Moi, je vais perdre mes cheveux, qu'est-ce qui va m'arriver? » Et finalement, on a réussi à s'organiser pour que ce soit les enfants qui lui rasent les cheveux avant qu'ils tombent tout au complet. Et même la mère avait de la chimio et parfois, ils retournent à la maison avec une petite bouteille qu'ils mettent là, soit dans une petite pochette ou qu'ils attachent carrément avec une épingle après un vêtement. Et finalement, la maman, avec sa petite fille, ont fait des pochettes qu'ils ont décorées ensemble pour mettre cette bouteille-là à l'intérieur. Comme ça, chaque fois que la maman revenait de son traitement, elle avait sa petite pochette décorative. Et c'était le traitement avec tous les effets secondaires qui sont désagréables puis qui amènent des changements dans la routine de tous les jours. Mais l'enfant se sent impliqué, se sent faire partie, je dirais, en anglais, on dit « journey », là, mais du parcours. Puis c'est ça le risque. En n'en parlant pas, c'est que les enfants aussi peuvent se sentir à part.
Oui, ce que j'entends, Kimberly, par ce que vous me dites là, c'est que l'enfant se sent impliqué encore dans la famille. Il fait encore partie de cette famille qui vit un défi, un grand défi à ce moment-là. Mm-hmm. Il faut qu'il s'adapte, il faut que tout le monde, tous les membres de la famille s'ajustent, et c'est sa façon de le faire. Mais il en fait toujours partie, tu sais.
C'est de trouver des choses, tu sais, autant dans les paroles ou dans les mots qu'on utilise, je pense que c'est d'adapter le vocabulaire à l'âge ou au niveau de développement, au stade de développement de l'enfant.
Mm-hmm.
On ne parlera pas de la même façon à un enfant de 5 ans qu'à un adolescent de 15 ans, par exemple.
C'est sûr.
Mais t'es des enfants de 8 ans qui se posent la question, qu'est-ce que tu penses que c'est la maladie de ta maman? Et ils me parlent comme des oncologues.
Ouais.
Donc, ça aussi, des fois, ça donne d'autres indices, là, mais... on serait surpris des fois de savoir ce que les enfants, des connaissances qu'ils ont,
mm-hmm.
ou de l'interprétation qu'ils en font.
De façon plus concrète,
mm-hmm.
On s'adresse bien sûr aux gens à la maison qui vivent peut-être ce défi-là. Ça peut être grand-papa, grand-maman, une tante, un oncle.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a un moment favorable pour parler de notre maladie ou de la maladie du conjoint à notre enfant, à nos enfants?
Mm-hmm. Bien, je dirais le moment favorable, idéalement, que ce soit le parent malade et son conjoint ou sa conjointe, qui sont ensemble, relativement calmes, qui eux-mêmes ont réussi à être quand même à l'aise d'en parler, puis de trouver une façon, puis de trouver un moment, je dirais, on n'annonce pas ça à nos enfants le matin avant qu'ils partent pour l'école, ou encore moins le soir avant de se coucher.
Ouais.
Mmh. Hein? Donc, souvent, ce que j'ai vu avec les familles que je rencontre, c'est qu'ils me disent « Hey, OK, samedi, là, on s'en va à la natation, puis en revenant, on se fait un petit dîner, là, on va s'asseoir ensemble dans le salon autour de la table, puis on va en parler.
Mmh. »
Parce que j'ai vu que Alice m'a posé 3-4 questions, Tristan, lui, se demandait telle autre affaire. Donc, les parents se préparent, ça les met plus à l'aise, et là, ils vont choisir un moment où est-ce que ils ont moins de chances d'être dérangés. Et où est-ce que si jamais ça crée des réactions?
Ouais.
Hein? Autant mm-hmm. chez eux-mêmes que chez les enfants, mais on va parler des enfants, qu'on a le temps après ça de s'occuper des différentes réactions.
Ouais.
C'est sûr qu'on peut poursuivre tout de suite après avec une activité, mais on ne s'organise pas pour, je dirais, quasiment faire garder les enfants puis partir pour la fin de semaine.
C'est sûr. On prend tous les enfants en même temps ou un à un?
J'ai déjà vu les deux,
mm-hmm.
puis je dirais souvent selon la catégorie d'âge. Je vais vous donner l'exemple d'une famille, une petite fille de 4 ans, 5 ans, avec les deux petits frères de 8 et 9 ans, c'est le papa qui a une tumeur au cerveau. Comment on explique ça? À ce moment-là, on s'est assis avec les 4 enfants.
OK.
Par la suite, les deux petits garçons qui sont un petit peu plus vieux avaient plus de questions, donc étaient plus verbales. Et là, on a vu important de rencontrer juste les deux petits garçons avec les parents pour qu'eux parlent un petit peu plus, étant donné que les petites filles de 4-5 ans, elles, pouvaient plus dessiner, jouer. Et mm. pour elles, pour l'instant, là, c'était moins pertinent, je pense, qu'ils soient là. Fait qu'on peut faire le mix des deux.
Il faut, j'imagine, s'attendre à ce que les grands, dans ce cas-là, continuent peut-être à huis clos la discussion avec les petits. Peut-être que les petits oui. seront plus à l'aise d'aller voir grand frère, grande sœur pour mm-hmm. en parler.
Oui. Puis ça, on le voit des fois. Moi, c'est arrivé, j'ai rencontré deux sœurs, une de 12-13 ans, si je ne me trompe pas, puis l'autre de 7-8 ans. Et puis là, celle de 8 ans, elle, à un moment donné, là, elle en avait assez.
Mm-hmm.
Fait que j'ai dit, garde, puis sa mère était aux soins palliatifs. J'étais toute seule avec les deux filles. J'ai dit, garde, va voir ta maman, c'est correct, blablabla. Et par la suite, quand je les ai vues la semaine d'après, on a vu que la petite sœur s'est retournée vers la grande sœur pour en parler.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, on s'assure justement aussi que la grande sœur ou le grand frère a le soutien nécessaire si jamais là, la petite sœur ou le petit frère en parle. Mais c'est correct qu'ils en parlent entre eux.
OK. Soins palliatifs amènent à, bien
oui.
sûr, parler de mort.
La mort, oui.
Parce que ça fait partie de cette maladie. Malheureusement, les enfants, est-ce qu'ils ont des questions par rapport au décès de leurs parents?
Par rapport à la mort, oui. Encore là, je dirais, c'est toujours une question de développement, d'âge.
Mmh.
Hein, on dit que la conception de la mort, les enfants... en viennent à la comprendre, là, si on va garder ça général, vers l'âge de, on dit entre 8 et 10, mais plutôt vers 10 ans, sans prendre pour acquis qu'à 10 ans, ils comprennent tout.
Bien sûr.
Encore une fois, tout dépendant de l'âge, il y a des enfants plus matures que d'autres. Donc, ça va dépendre de comment les parents en parlent aussi. Et souvent, la mort, même en tant qu'adulte, c'est un sujet malheureusement qui est encore très tabou.
Oui.
Cancer n'est pas nécessairement synonyme de mort ou de mort imminente, mais effectivement, on le relie. Et moi, je dis tout le temps, je le fais l'exercice avec les parents avant, quand j'ai la chance, de dire, si votre enfant vous demande si vous allez mourir, vous allez répondre quoi? Puis quand on y pense, la mort, ça fait partie de la vie.
Mm-hmm.
Et souvent, c'est ce qu'on peut répondre aux enfants, bien oui, hein, on vient au monde, on vit, puis après ça, quand on est vieux, on meurt. Et encore une fois, la mort est associée à la vieillesse. Mais souvent, moi, je vais même le demander aux enfants. La mort, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? Comment tu vois ça? Puis on regarde aussi c'est quoi les expériences qu'ils ont eues avec souvent des insectes ou des animaux.
Oui, ben oui.
Et c'est une bonne façon de leur expliquer, mais il ne faut jamais, puis là, je mets l'emphase, comparer la mort au sommeil, par exemple.
Oui.
OK, donc sinon les enfants, après ça, vont avoir peur de dormir ou vont voir quelqu'un dormir, ils vont penser qu'il est mort. Donc, d'utiliser le mot mort et décédé, c'est très important. Si on a à parler de la mort, il faut vraiment utiliser le bon mot.
Oui, et on va conclure là-dessus, Kimberly. Oui. Utiliser les bons mots en tout temps. Je lisais que parfois, certaines familles, certains oui. parents vont utiliser un mot bien à eux pour désigner oui. le cancer, pour éviter de dire le vrai mot, pour pas que les enfants comprennent quand ils discutent entre eux. Ce serait pas nécessairement recommandé non plus.
Bien, c'est pas nécessairement recommandé. C'est sûr qu'un enfant de 2 ans, qu'on lui dise que papa est très, 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 très malade, et ce qu'on dit avec le cancer, c'est de mettre le plus de mots « très
ouais. ».
Ça met l'emphase sur la gravité de la maladie. Et de dire que c'est un bobo, des fois, pour un enfant de 2 ans, bobo au cancer ne changera pas grand-chose.
Bien sûr.
Mais plus, je dirais, dès que les enfants vont à l'école et sont exposés aux mots, mais encore une fois, je pense que les parents doivent être à l'aise eux-mêmes avant tout.
Oui, c'est ce qu'on retient.
Oui.
Kimberly Thibodeau, vous êtes travailleuse sociale au programme d'oncologie psychosociale du Centre universitaire de santé McGill.
Oui.
Vous étiez là pour nous parler de comment on peut parler aux enfants du cancer. Et tout ça en lien avec ce livre signé par Cassia Whitelaw, un petit
oui.
livre au sujet du cancer pour t'aider au travers des moments difficiles. C'est publié au Centre de bien-être de l'Ouest de l'île. C'est gratuit.
Mm-hmm.
On mettra toutes les coordonnées oui. nécessaires s'il y a des gens qui avaient envie de se le procurer.
Oui.
C'est un livre qui s'adresse aux enfants d'âge primaire. C'est des exercices, des jeux, un petit peu sous forme de journal intime. Vraiment très bien fait.
Oui.
D'ailleurs, vous pourriez l'utiliser, là. Vous l'utilisez vous-même?
Moi, je le recommande. Je l'utilise moi-même, mais j'ai commencé même à le distribuer à des collègues.
Alors, ça fera sa traînée de poudre,
oui.
ce petit livre-là. Kimberly, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler.
C'est un plaisir pour moi. Merci. Au revoir.
Au revoir.